Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 2 de cette nouvelle série. Mais avant de commencer notre étude, j'aimerais vous transmettre quelques pensées que nous recevons dans notre cœur et esprit, surtout si nous nous donnons la peine de méditer la Sainte Parole de Dieu. Le Seigneur nous montre que les travaux que vous avez entrepris pour lui ne brisent pas votre courage et que les afflictions ne vous abattent pas entièrement, mais qu'en tout ce qui arrive, sa promesse vous console et vous fortifie. Jésus-Christ est assez puissant pour vous récompenser au-delà de toute borne et de toute mesure. Vous ne serez pas longtemps ici dans le travail, ni toujours chargé de douleur et de fatigue. Oh non ! Attendez un peu et vous verrez promptement la fin de vos maux. Une heure viendra où le travail et le trouble cesseront. Tout ce qui passe avec le temps est peu de choses et ne dure guère. Faites ce que vous avez à faire, travaillez fidèlement à sa vigne et il sera lui-même votre récompense. Écrivez, lisez, chantez ses louanges, gardez le silence, priez, souffrez courageusement l'adversité. La vie éternelle est digne de tous ces combats et de plus grandes encore. Il y a un jour connu du Seigneur où la paix viendra et il n'y aura plus de jour ni de nuit, comme c'est le cas sur cette terre. Mais il y aura une lumière perpétuelle, une splendeur infinie, une paix inaltérable, un repos assuré. Vous ne direz plus alors « Qui ?» me délivre de ce corps de mort. Vous ne vous écrirez plus « Malheur à moi parce que mon exil a été prolongé, car la mort sera détruite et le salut sera éternel. Plus d'angoisse, mais une joie ravissante, une société de gloire et de bonheur. Oh, si vous aviez vu dans le ciel les couronnes immortelles des saints, de quel glorieux éclat resplendissant ces hommes que le monde méprisait et regardait comme indignes de vivre, aussitôt, certes, vous vous prosternerez jusque dans la poussière. Et vous aimerez mieux être au-dessous de tous que au-dessus d'un seul. Oui, vous ne désirerez point les jours heureux de cette vie, mais plutôt vous vous réjouirez de souffrir pour Dieu et vous regarderez comme le plus grand gain d'être compté pour rien parmi les hommes. Oh, si vous goûtiez ces vérités, et si, on peut dire, si elles pénétreraient jusqu'au fond de votre cœur, comment, je vous le demande, oseriez-vous vous plaindre même une seule fois? Est-ce rien de pénible, qu'on ne doive supporter pour la vie éternelle. Ce n'est pas peu que de gagner ou de perdre le royaume de Dieu. Donc, levez les yeux au ciel. Le voilà Jésus-Christ et avec lui tous ses saints. Ils ont soutenu dans ce monde un grand combat. Et croyez-moi, maintenant, ils se réjouissent. Oui, maintenant, ils sont consolés et à l'abri de toute crainte. Maintenant, ils se reposent et ils demeurent à jamais avec lui dans le royaume de son Père. Chers amis, nous continuons donc l'étude, la partie numéro 1, et nous sommes maintenant à la partie numéro 2. La bonne nouvelle démasque le diable. Ce sera notre thème. La bonne nouvelle démasque le diable. Notre texte, nous le prendrons dans Saint Luc, chapitre 10, versets 17 à 19. Et là, on nous raconte que les 72 envoyés sont revenus pleins de joie et ont dit « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton saint nom. » Jésus-Christ leur répondit « Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. » Quand Jésus-Christ est venu au monde, il a révélé beaucoup de choses qui, auparavant, étaient voilées de mystère. Il n'a jamais prononcé de vérité plus précieuse que quand il a déclaré « Je suis la lumière de ce monde, c'est lui qui était et qui est le grand révélateur de tous les temps. » La chose la plus importante qu'il ait révélée, mais c'est Dieu et sa volonté de libérer l'humanité. Et la seconde, c'est de combattre Satan et son étrange royaume ténébreux. Voyez-vous, la tradition s'oppose souvent à la révélation. La lumière versée par Jésus-Christ sur ce royaume et ses habitants a suscité une composition plutôt, on peut dire, une sorte d'opposition farouche chez les religions qui préféraient la tradition à la vérité. Mais malheureusement, d'innombrables millions de gens cherchent toujours leur chemin à tâtons dans l'obscurité. Pourquoi ? Parce que ceux qui se perdent ne croient pas, parce que le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière répandue par la bonne nouvelle qui concerne la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Alors, quelle est la bonne nouvelle du Christ? La bonne nouvelle démasque Satan et révèle son domaine souterrain qui grouille d'esprits mauvais. Elle révèle aussi l'homme le prisonnier de ces forces immondes, et Jésus-Christ qui vient envahir ce monde hostile pour vaincre l'ennemi et libérer l'homme en brisant ses fers. Voilà donc la bonne nouvelle qui apporte la joie, dont les anges ont chanté en annonçant la naissance du Sauveur de ce monde. Après l'avènement de son roi céleste, son ministère, sa mort et sa résurrection, et l'avènement du Saint-Esprit qui a rempli les apôtres, la religion chrétienne, voyez-vous, elle est née, munie de toute la puissance du Christ. Le livre des Actes, c'est l'histoire de ces gens, hommes et femmes, remplis du Saint-Esprit et munis d'une commission divine, qui sont partis délivrer, rappelez-vous, ils sont partis pour délivrer les esclaves de Satan. C'est ça, et ça, croyez-moi, c'est l'Église qui agit. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16. Là, on nous raconte les activités de ces premiers chrétiens. Une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais, et tous étaient guéris. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 7, continue. Et là, vous voyez que Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules, dans leur ensemble, étaient très attentives à ce que disait Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. Car en effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Alors Satan devint tout à coup religieux, car il est rusé. Depuis ce temps, Satan a exploité la vanité et l'égoïsme des hommes pour dérober à maintes organismes chrétiens leur part de la puissance divine. En effet, il les a rendus aveugles pour qu'ils ne discernent ni son existence ni celle de ces hordes de démons et qu'ils se dépensent en de vaines tentatives de réformer l'homme au lieu de s'attaquer aux racines véritables du problème, c'est-à-dire à Satan et à ses forces. Il fait le contraire. Quelle est donc la source de tous nos problèmes? Eh bien, l'apôtre Paul, il savait que la source de nos problèmes surgit du domaine ténébreux des esprits. Il nous conseille, en Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12, « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, c'est-à-dire les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Jésus-Christ révèle Satan. Non seulement Jésus-Christ a-t-il révélé que tout le péché, toute la maladie et tout le malheur dont nous souffrons ont leur origine dans cette création déchue, mais il nous a donné des informations précieuses concernant le roi de ce domaine ténébreux. Il s'est servi de trois noms en parlant de son adversaire. Chaque nom est vraiment révélateur. Tout d'abord, il l'appelle Satan, qui veut dire adversaire. Ce serait donc l'adversaire de Dieu et de tous ses plans rédempteurs. Si nous étudions les incidents où Jésus-Christ l'a traité de Satan, nous allons découvrir quelques indices sur la nature et l'œuvre du puissant Dieu de ce monde. Jésus-Christ a parlé de Satan quand il a délivré la femme liée depuis 18 ans par l'infirmité. Il a révélé le pouvoir mystérieux que Satan exerce sur le corps physique de l'homme. Il y a beaucoup d'autres passages où Jésus-Christ s'est servi de ce nom Satan, et chacun répand encore un rayon de lumière sur la nature et sur l'œuvre de l'adversaire. Satan est le tentateur, ne l'oubliez jamais. Dans l'histoire de la tentation de Jésus-Christ, selon saint Matthieu chapitre 4, le Christ nous révèle que Satan, c'est celui qui nous tente. Ces tentations sont si subtiles que l'humanité reste déchue et impuissante, à moins que le Seigneur ne nous aide. Le deuxième nom dont Jésus-Christ se sert pour parler du malin, c'est « diable ». Ce mot « diable » veut dire « faux témoin », c'est-à-dire celui qui calomnie, et ce mot révèle un autre trait du caractère de notre ennemi. Voyez-vous, quand Jésus-Christ parle à un groupe de juifs religieux dans saint Jean, chapitre 8, verset 44, qui le calomnie et le diffame, il dit: vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtri dès le commencement, c'est-à-dire un véritable meurtrier, c'est ce qu'il a été. Alors je répète, pour que ce soit bien compris et qu'il n'y ait pas un mot par erreur, il a été le meurtrier, ne l'oubliez jamais, depuis le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce que il n'y a pas aucune vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce que il est menteur. Et comme je l'ai déjà essayé de le préciser, il est le père du mensonge. Satan se sert de la religion pour aveugler les hommes. Ces hommes que Jésus-Christ dénonçait étaient fortement religieux, ils étaient fervents, ils étaient dévoués à la justesse de Dieu. Mais voyez-vous, le diable les aveuglait à tel point qu'ils étaient devenus ses alliés. Ça pourrait nous arriver, pour s'opposer au projet de Dieu. Donc Jésus-Christ considérait qu'ils étaient les partisans du diable et ils partageront, et comment, le destin de celui-ci, c'est-à-dire qu'ils seront jetés avec le diable et ses anges dans le lac de feu. Le troisième nom dont Jésus-Christ s'est servi en parlant du diable est Beelzebul ou Belzébul, selon les versions soit allemande ou anglaise ou française. Prenons le mot Belzébul, un nom dont la signification est affreuse. C'est le nom dont les pharisiens se sont servis quand ils ont prétendu que Jésus-Christ chassait les démons au nom du prince des démons, Beelzebul. Ce nom se compose de Bil, de Bel, maître, et Tzebul, mouche. C'est-à-dire le diable serait donc le maître des mouches, du fumier, oui, vous l'avez entendu, du fumier, de la corruption, le fumier c'est aussi la corruption, et de la pollution d'aujourd'hui. Dieu de la corruption. Ce nom révèle qu'une partie de l'œuvre du diable comprend tout ce qui est immonde et malsain. C'est en quelque sorte la partie de son œuvre qui comprend les ulcères suppurants de Job, la chair pourrie du lépreux. Nous sentons la puanteur nauséabonde des cancers, et comment, et de toutes sortes de chairs moribondes. Beelzebul ou Belzébuth, dieu de la corruption, c'est son nom le plus révélateur. Nous le voyons tel qu'il est. En l'appelant Beelzebul, Jésus a déchiré le voile avec lequel les hommes déguisent les maladies naturelles, les faiblesses humaines et d'autres phrases anodines, pour nous démontrer que ce sont les manifestations des agents infernaux qui ne cherchent que à détruire les hommes, corps, âme et esprit. Et croyez-moi, c'est vrai. Toutes ces vermines, je les appelle parfois par les doryphores ou les acariens. Il y a également les démons religieux. Croyez-moi, ça existe. On ne le croirait jamais, mais les démons religieux, ça existe. L'histoire racontée, par exemple, au cinquième chapitre de Saint Marc, où nous voyons que Jésus-Christ a chassé la multitude des démons qui tourmentaient l'homme sauvage de Gadara, et les chargés de vérités précieuses pour celui qui cherche sincèrement à être délivré de n'importe quel malheur parmi tous ceux qui affligent l'humanité. Voyez-vous, quand Jésus-Christ est venu au monde pour délivrer l'humanité, son œuvre comprenait la guérison de tous ceux qui s'adressaient à lui et qui, on peut dire, ressentaient le besoin de la délivrance de ceux qui étaient tourmentés par un démon. Donc, il démasquait le monde souterrain du mal. Eh oui, et il révélait son pouvoir céleste qui domine ce monde. Voyez-vous, la religion de nos jours, elle a aidé énormément à déguiser l'œuvre des esprits mauvais en attribuant leurs actes destructeurs à des maladies naturelles. Prenons par exemple le cas de la femme qui restait courbée depuis 18 années et était totalement incapable de se redresser. Aujourd'hui, on dirait qu'elle souffrirait de l'arthrite ou Va savoir. Peut-être de la tuberculose de la colonne vertébrale. Mais par contre, voyez-vous, Jésus-Christ, il a constaté sans équivoque qu'elle était liée par un esprit mauvais, bien entendu. Il a déclaré que Satan l'avait liée. Nos penseurs modernes voudraient voiler le démon qui tenait cette femme prisonnière, et cela en lui donnant un nom scientifique, pourquoi pas bio. Ainsi déguisé, il serait libre de continuer son œuvre de destruction. Ah, mes amis, croyez-moi, vous devez savoir que c'est à mesure que nous prêchons la vérité et que nous faisons face à cette vérité que les hommes sont libérés. Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la sagesse et du savoir, car son diagnostic est absolument infaillible. Je parle donc avec confiance en m'appuyant sur sa sainte parole. Étudions de plus près les incidents qui composent l'histoire du fou de Gadara. Nous lisons que quand il a vu Jésus-Christ de loin, il est venu en courant pour l'adorer. Alors il y a ceux qui disent que c'était l'homme lui-même, de sa propre volonté, qui est venu pour l'adorer. Mais ce n'était pas le cas du tout, car cet homme était tout à fait sous l'empire, sous l'emprise des démons. Et les versets précédents soulignent ce fait-là. Non seulement les démons contrôlaient-ils toutes ses actions, mais ils se servaient de sa voix pour crier « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me punis pas. » Ces démons priaient en quelque sorte. En effet, ces démons se sont jetés à genoux devant Jésus-Christ et ont prié. Ils ont reconnu le fait que Jésus-Christ exerçait de l'autorité sur eux. Ah oui, mes amis, ne soyez pas dupes. On peut prier avec ferveur. On peut même reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. On peut admettre que c'est lui le Fils du Dieu Très-Haut, tout en restant assujetti au pouvoir diabolique. Vous le ne croyez pas, mais je peux vous dire que c'est vrai. C'est malheureusement vrai. Il y a des groupes religieux qui propagent la théorie fausse que les gens possédés ou obsédés par des démons, par des esprits mauvais, sont incapables de supporter la présence de Jésus-Christ ou d'écouter son saint nom, mais ce n'est pas toujours le cas, oh non, car ces démons-ci, dans le cas que nous venons de relater, il me semble qu'ils ont prié. Ils ont prononcé le saint nom de Jésus-Christ. Ils ont parlé avec lui et sans hésiter, ils ont reconnu. Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Ils ont reconnu son autorité totale. Et après que le démon a parlé, Jésus-Christ lui a répondu en lui disant de quitter l'homme, mais il ne voulait pas le quitter. Ce que Jésus-Christ a fait ensuite est très significatif. Il a demandé l'identité du démon. Quel est ton nom ? Non seulement faut-il savoir avec quelle sorte de démon on a affaire, ça c'est très utile, mais souvent est-il nécessaire de connaître leurs identités précises, et il en était ainsi dans le cas que nous étudions maintenant, à ce moment même. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a demandé « Quel est ton nom ?» Et les démons ont répondu « Mon nom, c'est Légion, c'est-à-dire multitude, car nous sommes nombreux. » Puis ils l'ont prié avec insistance de ne pas les envoyer hors de la région. Saint Luc, dans sa version de cette histoire, nous explique que ces esprits priaient Jésus-Christ de ne pas les envoyer dans l'abîme, car il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la colline. Les esprits prièrent donc Jésus-Christ de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Ce passage de l'Écriture sainte nous enseigne beaucoup que les animaux peuvent également être possédés, croyez-moi, c'est vrai. Ces démons ont prié Jésus-Christ avec insistance de leur permettre d'entrer dans ses cochons. Les porcs, on peut aussi les appeler cochons. Il est donc évident que les démons désincarnés n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes et qu'ils veulent bien entrer dans n'importe quelle créature qui leur offre une occasion de s'exprimer. Bien entendu, ils préfèrent cependant les êtres humains, tout simplement parce qu'ils ont des possibilités supérieures de communication. D'habitude, les membres de divers groupes religieux soutiennent que les démons s'occupent seulement de l'esprit humain. Mais j'ai vu tellement de choses, étant donné mon grand âge, que cela est faux. Une grande partie de leur activité peuvent s'attaquer également à notre corps physique, où ils produisent toutes sortes de maladies et d'infirmités. Mais en trouvant un exemple, je crois que nous pouvons trouver un exemple dans Saint Matthieu chapitre 12, verset 22. Là, on voit qu'on a amené à Jésus-Christ un homme qui était aveugle et muet parce que il était en quelque sorte possédé d'un esprit mauvais. Jésus-Christ a guéri cet homme de sorte qu'il se mit ensuite à parler et à pouvoir voir. De la même façon, ces esprits mauvais provoquent des troubles mentaux de toutes sortes, d'une tristesse, de la neurasthénie, de la mélancolie, jusqu'à des névroses ou à la pire démence. Puisque les porcs n'ont pas de vie spirituelle, je pense, il est évident que les démons sont entrés dans leur corps physique. Alors, la réaction des porcs était violente. Et comment ? Ils ont cherché à se détruire sur le champ. Aussi, revenons à l'histoire de Saint Luc. Nous retrouvons cet homme qui auparavant ne connaissait jamais un moment de paix, jour ou nuit, assis aux pieds de Jésus-Christ. Il portait des vêtements et était dans son bon sens. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas discuter ce sujet-là. Ils s'excusent en disant qu'il ne voulait pas faire de la publicité pour Satan ou mettre trop d'emphase sur les démons. Mais en fait, ils permettent à l'ennemi de travailler sans aucune opposition. Ceux qui se taisent au sujet des esprits mauvais deviennent, sans le savoir, les collaborateurs de Satan, car ils rendent impuissants les gens en les laissant en une ignorance complète de ces stratagèmes. L'ignorance, c'est, on peut dire, en quelque sorte, un champ fertile. L'apôtre Paul, en parlant de Satan, déclare que celui-ci exploite beaucoup de personnes parce qu'elles ignorent tout à fait ce qu'il est en train de faire. En effet, ce grand apôtre nous déclare en 2 Corinthiens chapitre 11 que Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Ils essayent de nous faire croire, par exemple, que ce sont des apôtres du Christ. Voyez-vous, ça, c'est tout à fait quelque chose de très raffiné. Et ce sont eux, en effet, qui nous disent qu'il est possible de substituer quelque chose aux doctrines essentielles de la rédemption. Ils voudraient remplacer la foi, seule fondation de la justesse, par les œuvres, ce qui contredit totalement l'enseignement sans équivoque de l'Écriture sainte, comme par exemple Romains, notez bien Romains chapitre 9, versets 30 à 33. Que dirons-nous donc de tout ceci? Des hommes qui ne sont pas juifs et qui ne cherchaient pas à se rendre juste devant Dieu, ont été rendus justes à ses yeux par la foi, uniquement par la foi, tandis que les membres du peuple d'Israël, qui cherchaient une loi leur permettant d'être justes aux yeux de Dieu, n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ne cherchaient pas à se rendre agréable à Dieu par la foi, uniquement par la foi. Ils pensaient l'être, de pouvoir être, donc en quelque sorte agréable à Dieu, par des œuvres. Et beaucoup de nous, d'entre nous, on pense souvent que c'est par les œuvres que nous pouvons plaire au Seigneur. Je ne travaille pas comme un forcené à mon grand âge, uniquement en cherchant d'être agréable au Seigneur par les œuvres, car je sais que j'ai été sauvé par grâce, uniquement par grâce. Il m'a sorti du bourbier, par amour, par charité, par compassion. Alors, voyez-vous, Ils se sont donc heurtés à la pierre qui fait trébucher, dont nous parle l'Écriture sainte. Voyez, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber, mais celui qui croit en lui ne sera pas déçu. Les agents de Satan, ils nous proposent toutes sortes de suppléments à l'œuvre rédemptrice du Christ, en déclarant qu'il faut ajouter ceci ou cela au sacrifice de Jésus-Christ. Vous vous rappelez sûrement, n'est-ce pas, que je parle de l'œuvre des démons. L'apôtre Paul parle de la même chose quand il nous déclare dans 1 Timothée 4, chapitre 1 à 3. Non, chapitre 4, versets 1 à 3. Je répète, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. L'Esprit le dit clairement, certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps. Ne faites jamais cela. Ils obéiront à des esprits trompeurs et aux enseignements des démons, tels que les Mormons, la Scientologie, les Témoins de Jéhovah, la science chrétienne, les Unitariens. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dont la conscience est morte, comme si on l'avait brûlée au fer rouge. Ces gens-là enseigne qu'il est mauvais de se marier. Surtout ne mariez-vous pas, restez uniquement entre hommes homosexuels ou entre femmes lesbiennes, et de manger que certains aliments. Surtout ne mangez pas quelque chose qui viendrait de l'animal, quelle horreur! Mais Dieu a créé tous ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les mangent après avoir prié, je répète, après avoir prié, en rendant grâce pour le remercier. Il faut donc constater que ce sont ceux qui auront abandonné la foi, cette foi qui a été accordée aux saints, ils obéiront aux enseignements des démons. Oui, les démons, croyez-moi, ils ont leur propre doctrine qui souligne l'effort que les hommes doivent faire pour mériter le salut par le moyen de leurs œuvres, faites surtout du yoga. Oui, mes chers amis, il faut vous en souvenir, c'est Jésus-Christ qui sait et qui veut vous délivrer des démons. J'aimerais citer un verset biblique qui traite de la chute de l'humanité et des maux que celle-là a entraînés et de l'œuvre de Dieu qui réinstalle l'homme là où tous ses besoins sont comblés par un flot inespéré de bienfaits et de miséricorde. Alléluia. Le voleur, il vient uniquement pour voler, pour tuer et pour détruire. Or moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Il faut constater le contraste ici entre ces deux êtres puissants et leurs œuvres. Ce texte nous révèle à la fois l'œuvre et la volonté de Dieu et de Satan. la guerre féroce que font ces deux forces spirituelles, le bon et le mauvais, ils influencent et dominent la vie de tous les êtres humains du monde, hommes, femmes et enfants. Il y a assez de bonnes nouvelles dans ce seul verset, si on veut l'entendre pour aider le monde tout entier. Et il y a assez d'avertissements pour que personne ne reste ignorant des projets de Satan et de ses hordes de démons. Examinons la première partie du verset, le voleur. Cela doit être, il me semble, Satan, n'est-ce pas? Car beaucoup de nos doctrines modernes ont dévancé Dieu et aboli le mauvais. Beaucoup de nos théologiens déclarent qu'il n'existe pas le mauvais, le mal. Mais les témoins bibliques de plusieurs églises l'identifient pourtant. Satan, c'est un être vivant. Ce n'est pas simplement une image obscure, une sorte de brouillard invisible. Ce n'est pas une force créée par la superstition et par l'ignorance. Il y a en effet un diable véritable. C'était un coup de maître de la part du diable quand il a entrepris de convaincre les gens qu'il n'existe tout simplement pas. On dit que les autruches sont les oiseaux les plus stupides qui cachent leur tête sous le sable pour ne plus voir le danger qui les menace. Personnellement, je ne le crois absolument pas. Ce serait idiot, n'est-ce pas? Mais il serait aussi fou d'écouter ces sages qui prétendent que le diable n'existe pas, qu'il est impotent, invisible et inexistant, qu'il n'y a pas de danger. La Sainte Parole, par contre, nous exhorte d'être très vigilants, de prier, de mettre toutes les armes de Dieu, car notre ennemi, tel un lion rugissant, se promène en cherchant quelqu'un à dévorer. Satan s'occupe de l'individu. C'était Satan qui a incité David à faire compter le peuple d'Israël, ce qui leur a valu une punition affreuse. C'était Satan qui a incité Ananias et Saphira de mentir au Saint-Esprit, ce qui leur a valu une punition rapide et féroce. C'était Satan qui avait lié l'homme de Gadara et la femme infirme qui était si courbée depuis 18 ans qu'elle était incapable de se redresser. C'était Satan ou l'un de ses démons qui possédait le garçon de Saint Matthieu, chapitre 17, et essayer de le détruire en le jetant dans l'eau ou dans le feu, car l'Écriture sainte déclare que Jésus-Christ a parlé sévèrement au démon et qu'il l'a quitté et que l'enfant était guéri sur le champ. Ah oui, mes chers amis, le diable existe réellement. S'il n'y avait pas de diable, il n'y aurait pas de péché, c'est aussi simple que ça. Quand tous les jours vous lisez le journal, vous entendez la radio, vous voyez peut-être la télévision ou sur votre internet, il n'y a pas un jour, où aujourd'hui vous ne constatez pas qu'il y ait des morts par violence, des tueries, au couteau, au revolver, ou à la mitrailleuse, ou des viols abominables. Pas un jour aujourd'hui, ce qui n'était pas tout à fait le cas quand j'étais un enfant. Vous direz que c'est pas vrai, vous direz, oh, vous savez, en ce temps-là, il n'y avait pas de renseignements. On ne savait pas ce qui se passait ailleurs. C'est joli cela, hein? C'est curieux. Quand je travaillais à l'horlogerie, on partait, ma femme et moi, au travail le matin, sans même fermer la porte à clé de l'appartement. Vous allez me dire, vous êtes un menteur, monsieur. Mais c'est vrai. C'est absolument vrai. On ne nous avait jamais rien volé. Un jour, j'ai oublié mon livret de paye. C'était une enveloppe jaune dans laquelle se trouvait la paye de la quinzaine, comme on disait en ce temps-là. Et je l'avais oublié au tea room où je suis allé boire un café. Et la patronne l'a mis dans le tiroir de caisse. Et j'étais tellement anxieux, j'ai prié, Seigneur, permets que ce petit sachet jaune ne soit pas volé. Et lundi soir, après le travail, j'ai couru vers ce tea room et la patronne, en me voyant, a ouvert le tiroir caisse et elle m'a tendu le petit sachet jaune, la petite enveloppe jaune. C'était tout normal en ce temps-là. Oui, c'est vrai. Bien sûr, vous avez le droit de dire que je raconte des mensonges. J'accepte cela, surtout si vous êtes quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans, qui n'a pas connu ce temps-là. Oui, mes amis, le diable existe. S'il n'y avait pas de diable, il n'y aurait pas de péché, pas de maladie, pas de malheur, pas de cœur brisé, pas de mauvaises herbes dans les champs des fermiers, pas de problèmes financiers, pas de frustration, pas de déception, pas de chômage excessif, ou même aujourd'hui, je crois que on est en 2012. Eh bien, ils ont montré hier soir que tout près, en Espagne, c'est pas loin, il y a des gens qui doivent aller dans les poubelles, dans les containers, pour encore récupérer un peu de nourriture. Et avec le danger de s'infecter. Ce ne sont pas des blagues, cela. Nous vivons des temps terribles, dangereux, et c'est que le début. Ce n'est que le début. Le pire est à venir. Je ne suis pas de mauvais augure. Ne croyez pas que je dis ça comme ça par hasard. Écoutez les séries sur l'Apocalypse, sur le site internet, vous pouvez trouver tout ce qui concerne les temps de la fin, l'Antéchrist, le 666, tout cela, et vous serez bien informés. Nous n'aurions pas besoin de la Sainte Bible et nous n'aurions pas besoin de notre Sauveur si les temps à venir étaient quelque chose de merveilleux. Voici son œuvre au diable. Le voleur, Il vient uniquement pour voler et pour détruire. Regardez donc son œuvre atroce, visitez nos hôpitaux et regardez les visages amaigris des malades qui souffrent. Soulevez un peu leur drap blanc pour contempler l'œuvre de destruction qui mine leur corps, qui autrefois était fort et solide. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ah oui, répondra-t-on. Ils sont évidemment malades. C'est la maladie qui les mine de cette façon-là. Mais je vous demande humblement, d'où vient-elle, cette maladie atroce ? Oui, d'où vient-elle ? Il n'y en avait pas en Éden. Il n'y en aura pas au ciel non plus. Ce n'est qu'ici-bas, dans ce monde pollué et de déchéance totale, où on se comporte n'importe comment, qui appartient au mauvais, que de telles choses existent. Oui, l'air que nous respirons n'est plus le même que quand j'étais enfant. Il n'y avait aucune abeille qui mourait en ce temps-là. Or, aujourd'hui, les abeilles meurent par millions. C'est pas moi qui le dis, attention, vous pouvez vérifier. Les poissons que vous mangez, il y en a plus de la moitié qui meurent en route et qui deviennent impropres à la consommation. L'eau est polluée à outrance. Les fruits et les légumes sont pleins d'insecticides. Je n'invente rien. Ils ont beau d'essayer aujourd'hui de revenir un peu par-ci par-là à du bio, avec tout ce qui est pollué autour de nous, ça va être très difficile. Moi, j'appelle cela du non-retour. C'est trop tard. Et croyez-moi, nous sommes prisonniers de Satan. Je voudrais vous faire visiter, par exemple, ce grand établissement psychiatrique dont les bâtiments couvrent plusieurs hectares. Entrons ensemble un peu là-dedans et voyez-vous ces cellules et ces yeux farouges qui nous guettent à travers les grilles et les barreaux. Ce sont des hommes et des femmes qui habitent un monde de cauchemars, de terreur et de peur, où les âmes immortelles sont menacées et chancellent dans l'abîme de l'irraison. Ces cris, ces hurlements de peur, ces blasphèmes, voilà comment s'expriment ces gens ligotés par Satan dans le monde des perdus et des damnés. Regardez un peu cette femme hagarde, peureuse. Autrefois, elle avait été très belle. Elle savait aimer, elle savait rire, parler, s'amuser autant qu'autrui. Qui donc a volé, qui a volé son sourire et sa raison? C'était le voleur qui vient uniquement pour cela, pour voler, tuer et détruire. C'est l'œuvre du mal. Et l'œuvre du mal est universelle. Nous n'avons pas besoin de visiter les hôpitaux ou les asiles pour contempler l'œuvre dévastatrice de Satan. Elle n'est que trop évidente partout. Les familles qui sont brisées, enfants, délinquants, guerre, cupidité, haine, toutes les choses dévastatrices du monde sont inspirées et promues par Satan et ses démons. Personne n'est indemne. Je n'oublierai jamais un homme que j'ai connu quand j'étais enfant. C'était un banquier, l'homme le plus riche de notre ville. Il avait une belle maison. Il avait bon caractère et il avait vraiment un très beau corps. Pour mon imagination enfantine, c'était l'incarnation de la santé, de la richesse et du bonheur. Et puis voilà qu'un jour, beaucoup plus tard évidemment, c'était avant que je ne devienne chrétien, j'étais chez le docteur pour un vaccin quand ce monsieur est entré. Or, j'ai été horrifié. C'était toujours le banquier. Il était toujours aussi riche qu'autrefois. Mais son corps avait été dévasté par la maladie et je n'ai jamais vu autant de peur, une réelle peur dans les yeux de cet homme que je n'ai remarqué ce jour-là dans les siens. Et plus tard, j'ai demandé au docteur ce qu'il avait. Et sa réponse était brève. Il a un cancer terrible dans toute la gorge. Satan l'avait frappé. Tout l'argent, tout le pouvoir de cet homme était inutile, totalement inutile contre le malin. Mais maintenant, je connais quelqu'un qui est capable de le vaincre. Je sais à qui m'adresser pour réclamer de l'aide. Je sais où trouver le grand médecin, le guérisseur des cœurs brisés, le sauveur de l'humanité perdue, et je voudrais vous le transmettre. Examinons encore une fois la seconde partie de notre texte. Jésus-Christ a dit « Moi, je suis venu pour que les hommes ça veut dire les hommes et les femmes, vous l'avez compris, aient la vie et qu'il ait en abondance. » Jésus-Christ a parlé ainsi à toute l'humanité. Le Sauveur parle ainsi à tous ceux d'entre vous qui ont subi des pertes, pertes d'innocence, de vertu, de respect, de foyer et de joie. Satan a semé le péché dans votre vie jusqu'à ce que votre être tout entier deviennent en quelque sorte péché. Et pendant vos moments de sagesse, vous protestez contre cette chose maudite. Écoutez un peu votre Sauveur vous parler maintenant. Il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Oui, il y a de l'espoir pour vous. Vous aussi, mon ami eux, au désespoir, accablé de maladie, écoutez celui qui vient vous délivrer. Je suis venu, il n'a pas dit j'allais peut-être venir, ou je vais venir un jour, mais je suis venu. Il s'approche de vous maintenant pour que vous ayez la vie. Un secours toujours prêt dans la détresse. Maintenant, c'est l'heure que Dieu vous destine. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Il est venu et à ce moment même, il vient. C'est vous qu'il veut sauver, c'est vous qu'il veut guérir et bénir. Il vient pour détruire l'œuvre du diable, et si le Fils de Dieu vous libère, vous serez encore vraiment libre. Pourquoi pas vous? Êtes-vous capable de croire cette bonne nouvelle? Si vous l'êtes, les liens de Satan vont commencer à se défaire dès ce moment même. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui sera le premier de vos beaux jours. Vous pouvez rencontrer le Sauveur à ce moment même. Acceptez-vous de vous mettre à genoux maintenant et d'offrir votre cœur au Seigneur? Il vous acceptera. Jésus-Christ accepte tous ceux qui se tournent vers lui en sincérité. Tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Joël, chapitre 3, verset 5. Jésus-Christ veut guérir aujourd'hui tous ceux qui sont affligés ou malades. Il est tout près, beaucoup plus près que vous pensez, même plus près que vos pieds, que vos mains, que votre haleine même. Il veut vous guérir, c'est sa volonté divine que vous soyez guéri. Osez donc croire, osez accepter votre guérison maintenant et acceptez votre Sauveur personnellement. Chers amis, je voudrais vous demander de prier maintenant ensemble. Prions. Mon Père céleste, ta parole dit que tu as donné à chaque homme, à chaque femme, une mesure de foi. Oui, tu dis, si nous pouvons croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Tu dis également que tu nous donnes la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu vas même jusqu'à dire que toute puissance nous a été transmise par Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur pour ces formidables promesses. Merci de ce que tu as dit, que celui qui croit en toi va faire les œuvres que tu as faites et même que nous pourrons faire des œuvres encore plus grandes. Et que tout ce que nous demanderons en ton saint nom, tu vas le faire afin que ton Père soit glorifié en toi. Ô Seigneur, toi qui es la source de la santé et de toute guérison, toute force et paix, enlève de nous tout ce qui empêche l'œuvre de la puissance guérissante et de restauration de nos corps. Enlève de nous toute crainte, toute anxiété et peur. Enlève de nous toute amertume, et donne-nous de pardonner à nos semblables et à nos familles. Merci parce que, à cet instant même, les œuvres de destruction de Satan sont rompues, et que tu guéris et que tu restaures tous ceux qui s'attendent et se confient entièrement en toi maintenant. Oui, oui. Nous croyons que tu as touché chaque malade qui écoute ce CD maintenant. Gloire et louange te soient rendues à toi, ô Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. J'aimerais juste vous dire, chers amis, que je suis d'un âge certain ou d'un certain âge. Je vais sur mes 86 ans. Et avant de commencer ce message, j'ai pensé que je ne pourrais jamais le faire. J'étais tellement dans un état de sommeil bizarre que j'aurais mieux aimé me coucher toute la journée. Et quelque chose en moi m'a dit, réagis. Et vous avez bien compris comment nous pouvons réagir, surtout si vous avez eu le bonheur d'écouter plusieurs de ces études. Et tout à coup, tout s'est envolé. J'ai même pensé que je pourrais jamais parler sans que la voix craque totalement et que je ne puisse plus donner un seul son de la voix. Absolut keine Möglichkeit mehr, zu sprechen. Et voilà, tout a été dissipé et j'ai pu vous donner ce message. Si cela est possible à 86 ans, pourquoi le Seigneur ne pourrait pas intervenir dans votre vie, vous qui êtes très probablement la moitié plus jeune que moi? Alors, ayez confiance, croyez, et vous verrez la chose s'accomplir. Chers amis, je sais que le Seigneur vous aime. Il vous aime beaucoup plus que moi, mais je vais vous dire que je vous aime tous à la mesure de mes possibilités humaines. Et je vous aime intensément et je désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de mon esprit, que vous puissiez être heureux, beaucoup plus heureux que je ne l'ai jamais été quand j'ai eu l'enfance la plus effroyable qui puisse exister. 4 ans d'école primaire, 5 marâtres, dont toutes m'ont battu tellement que j'ai dû fuir à l'âge de 13 ans pour sauver ma vie. Et c'est un miracle ce que je fais maintenant à mon très grand âge. Un véritable miracle. Et si il y a un miracle pour un individu qui était totalement perdu, corrompu, pécheur, alors vous pouvez bien comprendre que pour vous, il y aura encore plus de possibilités d'être au bénéfice de miracles et de la bonté de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Soyez bénis. À demain, chers amis, pour le numéro 3 de cette série. À bientôt. Au revoir.